Un petit point juste sur le déroulé de cette conférence de presse, parce qu'il y a quelques petites modifications, d'une part, et d'autre part, nous avons une contrainte horaire, parce que à 13h, dans la cour d'honneur du Palais des Papes, à l'initiative de la coordination nationale des intermittents, tous les professionnels du spectacle se réunissent, notamment pour faire le point sur les négociations et les attentes, mais aussi pour écouter, il y aura un effet, non pas de vidéotransmission, mais pour écouter, sans l'image peut-être, mais avec le son, les propos de Jacques Chirac, qui logiquement devrait intervenir sur la question des intermittents. Donc, comme le rendez-vous est prévu à partir de 13h dans la cour, on va essayer de se tenir à une heure de conférence de presse, c'est-à-dire qu'à midi et demi, quoi qu'il arrive ou presque, on arrêtera cette conférence. Du coup, le programme est un tout petit peu modifié, puisque Laura Adler, qui devait intervenir en troisième position, finalement a choisi de ne pas intervenir pour ne pas comme ça presser trop les choses, etc. Donc pour la presse, il y aura un point presse qui sera organisé sur la participation de France Culture ultérieurement. Et donc nous avons une heure pour parler des deux, ou plutôt quatre spectacles annoncés aujourd'hui. En l'occurrence, les trois spectacles de Thomas Ostermayer, Concert à la carte, Nora et Disco Pigs, c'est pas dans l'ordre, et du spectacle, donc on recevra tout à l'heure, et du spectacle de Charles Torchman, Réou, sur un texte de François Bon. Donc à ma gauche, Charles Torchman et Agnès Sourdillon, qui est une des quatre comédiennes du spectacle. Bonjour à vous. Pour commencer, il faut peut-être fixer deux, trois petites choses. Charles Torchman, vous êtes directeur du Centre National de Nancy, en Lorraine. Ça a son importance. Et vous travaillez sur ce spectacle avec François Bon, qui est l'écrivain que l'on connaît, qui depuis une vingtaine d'années écrit des textes à fort caractère sociologique. On se souvient de son premier texte qui s'appelait « Sortie d'usine ». Donc ça donne déjà des pistes pour comprendre votre démarche et pourquoi vous vous êtes emparé d'un j'allais dire d'un fait divers, mais c'est tout sauf un fait divers, d'un événement qui a marqué l'actualité et politique, et sociale, et humaine, et j'imagine que c'est l'enjeu du spectacle, ces dernières années. Alors peut-être quand même qu'il faut rappeler ce qu'est Déou, puisque ça vous concerne directement, c'était sur votre territoire, c'est un événement, la fermeture des unes Déou, qui a eu des conséquences nationales, mais aussi des implications locales dans le tissu régional, là où vous vivez en fait.
Donc, je vais juste reprendre un petit mot, c'est celui de sociologique. Je crois que François Bond aurait pensé un mot qui, non pas qu'il récuserait, mais qu'il mettrait un peu de côté. Son écriture est avant tout celle d'un écrivain qui a un regard sur le monde assez spécifique. Vous avez cité Sortie d'usine. C'est un des rares écrivains, peut-être, contemporains, qui ose aller soulever des trappes et, dans le monde et aller dans des endroits qui sont plutôt des labyrinthes, où il n'est pas facile d'aller et où lorsqu'on en revient, on en revient lourd sur les épaules, et lorsqu'on dépose ça sur sa table d'écrivain, il y a une responsabilité humaine, mais aussi une responsabilité du coup sociale et politique qui fait que l'écriture s'engage et qu'elle ne s'engage pas donc essentiellement sur des actes subjectifs.
Donc vous récusez l'idée d'un théâtre de témoignage?
C'est pas un théâtre de témoignage, en tout cas pour ce qui concerne Déou, c'est un théâtre d'écrivain. Il y a une écriture extrêmement singulière. François a une écriture dont on pourrait rapidement dire qu'elle est aussi distordue que l'est le monde dans lequel nous vivons, que la syntaxe qu'il met en jeu est une syntaxe brisée, cassée, aussi brisée et cassée que celle du monde, mais en même temps qui prend appui et qui fait référence à deux choses fortes. D'abord des appuis littéraires sur lesquels il s'appuie, qui sont la grande littérature française, et je pense notamment à François Rabelais, et puis qui prend appui aussi sur une langue populaire. La langue parlée est une langue rythmée sur laquelle François s'appuie beaucoup pour écrire notamment sa langue de théâtre. Alors, vous avez parlé de Déou. Alors Déou, c'est bien D-A-E-W-O-O. On a demandé à des Coréens comment ça se prononçait. On a cru qu'il y avait des prononciations compliquées. En fait, c'est très simple. Ça se prononce Déou, comme chez nous. En Lorraine, les usines Déou se sont installées. Il y a eu une promesse d'installation d'usine en 1986 de 3 usines de voitures, micro-ondes, frigos, télévisions, essentiellement d'appareils ménagers. Ça représentait pour la Lorraine un espoir absolument immense, puisque après les chocs industriels extrêmement violents de ceux de la sidérurgie, qui maintenant en sont à la sidérurgie en est à son point final, l'industrie qui est encore en jeu, Arcelor, menace d'être en état de liquidation. Et les usines d'EU représentaient véritablement un espoir pour une certaine, pour des coins très précis de la Lorraine du Nord, la vallée de la Fensch, une partie également de la Meurthe-et-Moselle. Ces usines ont été accueillies à coup de, non seulement avec un grand espoir, mais à coup de subventions publiques extrêmement fortes, environ 1 million de francs lourds par salarié. Et puis elles ont fermé 8 ans après. Il se trouve qu'avec François Bon, sur les questions que vous évoquez de ces labyrinthes du monde, nous travaillons depuis 8 ans, non seulement sur des textes de théâtre, mais aussi via certains ateliers d'écriture qu'on a engagés avec des populations en situation d'urgence, comme des érémistes ou des sans-abri, donc ceux qui sont à la lisière du monde, ceux qui sont exclus précisément par le système économique, par la divinisation de l'économie, et on voudrait que l'économie, par le plus grand des paradoxes, métamorphose la plaie que vient d'infliger l'économie. C'est bien ce qui s'est passé avec le cas d'EU, d'une certaine façon. Elle est accueillie en Lorraine, donc à peu près 2000 emplois sont créés. 8 ans après, tout est liquidé. Et avec François, c'était, je me rappelle très très bien, c'était exactement dans la cuisine du Centre Dramatique National devant la machine à café. Il a l'habitude de venir très souvent à Nancy. Et là, on ouvre un journal, le journal local, le Républicain Lorrain, où on apprend qu'une des usines d'EU, celle de Ville-et-la-Montagne, a été incendiée. Et tout de suite, des soupçons pèsent sur un des salariés de l'usine, qui est actuellement en prison, dont le procès va avoir lieu au mois de septembre. En jouant d'EU, nous penserons à lui, parce qu'il n'y a aucune preuve à l'égard de personne qui a été incarcérée. Et plusieurs choses nous choquent avec François. D'abord, la fermeture de ses usines, et puis cette idée que le théâtre a parfois besoin, comme la littérature, en tout cas la sienne, de parler dans la colère. En tout cas, de parler avec colère de l'état des choses lorsqu'elles sont les plus proches de nous. Et de ne pas passer par des métaphores ou des textes métaphoriques pour dire « ça va pas ». Donc on a eu envie d'un coup de colère et de dire « ça ne va pas ». De plus, à l'époque, le président du conseil régional, qui avait fourni des aides considérables à l'installation des usines d'EU, Gérard Longuet, avait tenu des propos, je vous dis exactement ce qu'il avait dit, il avait dit « les collectivités territoriales ont engagé à d'EU des sommes importantes, mais 8 ans après, les usines fermées, nous avons récupéré notre mise. » Ça fait bondir autant que lorsque, à l'époque, Charles Pasqua, lors de l'assaut de la grotte d'Ouvéa, avait déclaré, lorsque Guy Canac avait été assassiné, « on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs ». Lorsqu'on met ces deux phrases, moi j'ai mis ces deux phrases en rapport tout de suite, on s'est dit c'est pas possible. Il y a des moments où on se dit c'est pas possible, comme citoyen, comme homme de théâtre, on va frapper un grand coup de poing sur la table, enfin un grand coup de poing, on va donner ce coup de poing sur la table et dire on n'est pas d'accord. De plus, la fermeture des usines, les combats qu'ont engagés ces femmes à d'EU, puisque c'est majoritairement des femmes qui étaient engagées à d'EU, c'était des combats absolument exemplaires, exceptionnels, et les usines fermées, on en connaît les chiffres, on sait que ces usines vont être délocalisées, on va en connaître la mise investie par les collectivités locales et récupérée, mais ces vies-là, toutes ces vies effacées, rasées, balayées, cachées, celles-là, elles ne laisseront plus de traces. Il ne restera plus que les plans comptables.
Alors comment vous avez travaillé, ou plutôt comment vous avez travaillé, comment François Bon a travaillé avec vous pour l'écriture de ce texte? Est-ce que vous êtes resté sur le coup de cette colère, ou vous avez été à la rencontre de ces femmes, parce que vous dites qu'elles étaient majoritaires, dont la vie s'arrêtait, ou en tout cas dont la vie professionnelle s'arrêtait, mais avec ce que la presse pourrait appeler les effets collatéraux dans leur vie personnelle?
Avec François, on a fait d'abord un jour, justement, sous le coup de la colère, pour aller voir, on a pris une voiture et on est allé dans l'usine de Famec, il n'y avait rien écrit encore. Donc c'est une petite usine, il y avait 239 salariés. L'usine était fermée, elle était vide. On a réussi à entrer par un stratagème, puisque l'usine était bien sûr interdite d'accès. On est rentré au culot comme ça dans l'usine, on a dit qu'on faisait une mission d'étude, on est rentré. On a pris quelques photos de cette usine et lorsqu'on est arrivé dans cette boîte bleue, vide, il y avait un tas de télévisions, monceaux de télévisions, qui allaient être vendus aux enchères. Et il restait à peu près 8 ouvriers qui étaient là, dont un cadre avec qui on a parlé, qui balayait l'usine, qui était réduit à balayer l'usine, et qui nous disait, on est tous liquidés, je vais peut-être être engagé par l'usine qui va reprendre l'usine Déo, c'est l'usine allemande qui s'appelle Thyssen. Et j'ai rédigé mon CV, on me demandait si je savais parler allemand, j'ai dit non, donc il n'a pas été embauché. Évidemment, vous ne pouvez pas vous imaginer la vallée de la Fensch, mais imaginez qu'on puisse demander à quelqu'un qui a été viré pour retrouver un boulot qu'il doit parler français et allemand, c'est quand même assez insupportable. Et il était là, il balayait, et... Je pense que François a eu tout de suite, là, à ce moment-là précis, le déclic, non pas de la première scène, mais de la dernière scène. C'est une scène d'ailleurs qu'on n'a pas gardée, mais ça commençait par un rêve d'usine. Et il y avait, si je me souviens bien, ça commençait par l'entrée sur du béton gris et le toit bleu de cette usine. François n'a pas été rencontrer les femmes de chez Déo. Il n'a pas fait de témoignage, il n'a pas fait de spectacle témoignage. Ce n'est pas du tout un spectacle enquête. On n'a pas voulu reprendre des stratégies d'écriture déjà mises à l'épreuve, disons, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Il a écrit, lui, à l'aide d'un travail colossal d'enquête qu'il a fait. Il a rencontré, par contre, les délégués syndicales de chez Déo, aussi bien celle de la CFDT que celle de la CGT. Et puis de la CFTC aussi. On a rencontré des femmes extraordinaires, vraiment extraordinaires. Je pense à l'une d'entre elles, qui est... Parce que notre grande inquiétude, lorsque François avait écrit la pièce, mais je vais trop vite sur les délégués syndicales. Parce que je sens que vous avez envie de poser une question.
Non, je voulais juste savoir si finalement ces quatre personnages, puisque cette pièce est un quatuor entre quatre femmes, donc ces quatre femmes sont des personnages de théâtre, exclusivement de théâtre, par rapport au processus d'écriture. Est-ce que vous le ressentez comme ça, Agnès Bourdillon?
Oui, moi je partage vraiment cette idée que c'est un témoignage, donc oui, c'est vraiment des rôles. C'est vraiment des rôles. Et je pense que François, il explique que quand il a écrit, il essayait de garder la cadence d'une parole, de la parole de ces femmes. Et il y a une espèce de... Comme moi, je suis en train de parler en ce moment, d'ailleurs. Il y a plein de silence au bout des phrases quand les gens parlaient, les gens avec qui il a parlé. Et en fait... Ça fait vraiment un texte de poésie. Donc en fait, ce qu'on joue, c'est en s'appuyant sur les mots. Enfin, pour moi, c'est du théâtre, mais c'est une façon d'être. Il le dit aussi dans le texte, façon d'être ensemble. Jouer ça, c'est une façon d'être avec ces femmes. Mais je ne sais pas.
Et la première scène, d'ailleurs, est une scène où les femmes sont ensemble, puisque la pièce démarre un an après la fermeture, et elles disent ce désir d'être ensemble. Il y a une très jolie phrase, on est un bloc, on est l'usine, elles disent au début et aujourd'hui, donc l'usine n'est plus là, donc le bloc s'est dissocié, et elles se sentent en fait, c'est une expérience de la solitude qu'elles vivent.
De la solitude?
Oui.
C'est une solitude, en fait, il met les pieds dans les plats, et il dit qu'on... il y a une manière d'être ensemble et dans cette solitude-là, à la fois seul, c'est compliqué en fait. Et ça ressemble, c'est cru. Il parle d'un endroit précis, à un moment précis, et dans la nudité de ça, sans faire de la poésie, juste en disant des choses, ça construit finalement tout un monde qui parle de manière nouvelle.
Donc comme vous récusez l'idée de théâtre de témoignage et de sociologie, vous récusez aussi l'idée d'un théâtre réaliste, mais plutôt d'un théâtre de la nudité, pour reprendre l'expression d'Agnès Charles-Georgemann.
Oui, François, il a un rapport au théâtre qui est étrange. Il a un rapport au théâtre qui est celui d'un écrivain au sens pur. C'est pas un spectateur de théâtre, par exemple. Je peux le dire là, moi j'ai une admiration pour lui absolument immense et totale sur l'homme et l'écrivain, mais sur le théâtre, il a par exemple un truc assez formidable quand il vient suivre quelques répétitions. Il est venu suivre quelques répétitions. Il ne faut pas trop l'avoir avec soi aux répétitions parce que il est très très sur son texte. Et des fois il ne regarde pas, il écoute, il va se cacher, mais vraiment il va se cacher, il va se mettre derrière les gradins. Il y a des moments, on ne le retrouve plus, je dis où il est, là, le grand, là. Il se retrouve dans la cabine technique, et après on le voit avec les techniciens, en train de discuter, il regarde la marque de la perceuse, il regarde comment les élingues ont été posées, et puis hop, il va revenir, et il a entendu tout. Il a entendu absolument tout le texte. Donc il a un rapport au texte théâtral qui est... Comme le disait Agnès, qui a un rapport poétique, mais non pas au sens poétique évanescent du terme, au sens poétique fort, où il y a une condensation et une concentration très forte de la langue.
Les mots et les actions sont concrètes.
Ah, c'est très très concret. Le théâtre de François Beau est un théâtre hyper concret, mais c'est vrai que ce n'est pas un théâtre réaliste. Il refuse le naturalisme. En tout cas, il se porte bien sur des plateaux nus. Il se porte bien que le plateau dans lequel nous sommes ne soit pas nu, il se porte bien, il n'aime pas trop l'accessoire, il n'aime pas trop la métaphore. Il aime que les comédiens ou les comédiennes arrivent et disent. Et disent avec une immense fragilité. Parce que quand il écrit pour le théâtre, il se pose une question qui est forcément la question que se posent tous les gens de théâtre quand ils répètent, et même le public. C'est qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on regarde ? Les êtres vivants qui nous ressemblent, mais est-ce qu'ils jouent ? Est-ce qu'ils jouent pas ? De quel droit ils jouent ? Ça, c'est une question admirable que François Bon pose à la scène 7. Ne ratez pas la scène 7, parce que c'est une scène admirable où tout à coup, François, c'est un truc étonnant, c'est comme s'il arrêtait le réel, donc la fiction du réel, ce qu'il raconte des femmes de Déhou, tout ce qu'il raconte est vrai. François n'invente rien. Mais il y a un moment où il invente, bien sûr c'est lui qui écrit, où il invente des percussions entre l'histoire de Déhou, donc l'histoire collective et sociale du chômage, et en même temps on le voit rentrer dans des intérieurs, dans l'intérieur de ces femmes, dans l'intérieur de la tête de ces femmes, qu'est-ce que ça provoque, qu'est-ce qu'on mange, comment on fait ses courses quand on gagne 4200 francs par mois, qu'on est au magasin Lidl et qu'on est obligé de cacher ce qu'on achète, et qu'on fait exprès de ne pas passer à la même caisse que sa copine. C'est dehors qu'on dira bonjour à la copine, c'est pas dedans. Qu'est-ce qui se passe quand tous les matins, on boit du café au lait et qu'on vit les volets fermés parce qu'on n'ose plus aller dehors ? La question, c'est très violent chez François. Parce qu'il y a des choses qui... Au fond, c'est lui-même qui les sent chez ces choses-là. C'est comme si en chacun de nous, il y avait un chômeur potentiel, quoi. Il y avait quelqu'un qui allait être évacué, où le temps allait être évacué, où le corps allait être évacué. Je ne sais pas ce que je voulais dire, je voulais parler de ça, et bien vraiment j'ai perdu mon idée, mais j'allais dire une chose géniale, la scène 7. Dans cette scène 7, François ose dire à un moment que les acteurs que vous avez, les personnages qu'on a devant soi, s'arrêtent et disent, voilà, nous sommes des actrices. Et voilà pourquoi on a choisi de faire ce spectacle. Voilà pourquoi on a choisi de faire comme un pacte de confiance et même un pacte d'amour avec ces femmes qui ont été virées. Voilà pourquoi on fait théâtre de ça. Et bien sûr, ça pose une question. Ça pose une question, c'est Samira qui dit ça. De quel droit pourquoi fait-on ça? Est-ce que le théâtre est simulacre ou pas simulacre? Est-ce que le théâtre est un acte public ou pas public? Qu'est-ce que c'est que la vérité? Pourquoi est-ce qu'on est là? Et c'est, pas pour moi, hein. Moi cette scène-là elle est absolument bouleversante parce que on est au plus près du public, on est au plus près de ces femmes. On a vécu une expérience, pour tous, et je vous assure qu'on vient à Avignon, on commence la première a lieu le 18, on a des charges, des accus incroyables. Parce qu'il y a 5 jours, à Nancy, avant de venir répéter à Avignon, on a demandé à des délégués syndicales, et particulièrement à une qui a mené un combat mais exceptionnel, qui s'appelle Isabelle Bagny, de venir avec des femmes de Déhou, des chômeurs de Longwy, venir voir un filage. Bon, je ne raconte pas de salade, parce que c'est vrai, à la fin du filage, il n'y a pas eu un mot. Il y a eu des gorges serrées, les nôtres, les leurs, il y a eu très peu de mots échangés. Et il y a eu cette chose magnifique d'Isabelle Bagny et des autres qui nous ont dit, on les reconnaît tous. Toutes ces voix, c'est des gens qu'on connaît. Toutes ces voix, c'est les gens qu'on a virés. Elles nous ont dit merci. C'est parce qu'on a fatigué aussi.
Y a-t-il des questions? Non, alors je vais enchaîner parce que Charles Orgeman, ce texte qui est donc concret sans être naturaliste, cette expérience des hommes et des femmes virés de Déhou que vous avez connu d'assez près, est-ce que ça n'entame pas un petit peu la liberté du metteur en scène?
Oh non, 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 ça, au contraire, ça la décuple. Moi j'estime qu'un metteur en scène, c'est quelqu'un qui doit essayer de bien faire jouer les partitions. Je pense pas qu'on soit, enfin, tu vois, que la position du metteur en scène soit celle d'être au centre du dispositif de création. C'est bête à dire, mais il y a une équipe, là en l'occurrence il y a une équipe assez géniale mobilisée autour de ce projet. Moi j'essaye d'être fidèle à la pensée de François, j'essaye d'écouter au plus près ses voix, quoi, de ne pas tricher. On essaye tous de ne pas tricher. C'est pas un théâtre vrai, hein, mais et en même temps, oui, il y a quelque chose de vrai dans ce qu'on essaye de faire. J'essaie d'éviter toute métaphore, toute image. Il y a un moment, dans cette scène 7 précisément.
À ce sujet, je vais lire comme ça, je bafouillerai moins. Mais pour éviter toute métaphore et tout ça, c'est une petite histoire de La Fontaine. C'est. Il était en train d'écrire et il cherchait un adjectif pour parler de l'onde. L'onde était transparente, mais transparente comme quoi? Alors il cherche et il trouve. L'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour. Enfin, elle est simplement comme elle-même, l'onde. C'est pas clair. C'est pas grave.
C'est pas mal. Alors dans la scène 7, c'est Christine qui dit ça, Christine Brucher, au début, elle dit « On aurait pu jouer les suppliantes d'Eschyle ce soir. » Parce que les suppliantes, c'est ça, c'est des barbares qui viennent assaillir des femmes. Et on aurait pu jouer les suppliantes parce qu'on aurait pu jouer ce moment de bascule. Mais on ne joue pas les suppliants parce qu'on ne peut pas, on va jouer ça, quoi. Et chaque actrice vient dire son rêve possible de théâtre. Il y en a une qui vient et qui dit, on aurait pu jouer dans l'usine aussi. C'était notre rêve avec François Bon. C'était d'aller dans les usines et de dire déjà ça. Il y a tout cet on aurait pu. Et puis ce qu'il y a, c'est au fond, il n'y a que la présence de ces voix, il y a la présence de ces actrices qui, je crois, au plus près des voix effacées, redonne de la présence. Enfin, c'est bête ce que je dis. C'est la présence qui redonne la présence. Ouais, c'est un peu comme François Bon.
Merci, cher Tauchman. Y a-t-il des questions avant qu'on se quitte? Il faut toujours attendre quelques secondes avant qu'un doigt se... une personne se décide à lever le doigt. Madame.
Est-ce que vous n'envisagez pas cette pièce de la...
J'ai une bonne gueule, donc ça marche normalement.
Est-ce que vous n'envisagez pas de cette pièce de la faire itinérer, voyager dans la région de ces gens pour les soutenir spirituellement, parce que là, ce qui va se passer dans les années à venir est quand même grave de chez grave. Hein. On a les mêmes depuis 40 ans, et ça ne fait que croître et embellir. Donc, là, bien sûr, les gens qui vont voir cette pièce, mais ce ne sont pas des gens de ce métier. Et ces gens qui sont laissés chez eux comme ça, qu'allez-vous faire pour eux pratiquement? Bon, vous avez extrait la substantif unique, la spirituelle moelle, mais après.
Ah, ça c'est la vraie question. La vraie question qui se pose aux gens de théâtre est dans leur responsabilité avec le public. Et avec le public qui n'est pas, c'est pas du tout, c'est, je dis ça très sincèrement, hein, qui n'est pas que celui du Festival d'Avignon. On a déjà commencé, nous avons par exemple, on a engagé toute une série de rencontres avec beaucoup de comités d'entreprise, de syndicats, et nous allons, sitôt que le spectacle sera joué à Nancy, il ira dans le bassin, précisément là, où ont eu lieu les dégâts et les désastres. Et maintenant, c'est à la demande même de ces comités d'entreprise et de ces syndicats que nous irons jouer. L'objectif de DEU, c'est aussi que, après le théâtre, ça parle, que ça discute. Bien sûr, on ne va pas changer. Moi, je n'empêcherai pas le patron Kim Woo-chung, qui est le PDG, l'ex-PDG de DEU, qui est un brigand sans nom. L'ex-PDG de DEU a escroqué 2 milliards, c'est ça Julie? Oui, Julie Pilot me souffle ça. 2 milliards de dollars, et il sait, alors il faut que vous sachiez des choses quand même. C'est Kim Woo-chung, PDG de DEU, a obtenu en 1986 la naturalisation française. Elle lui a été accordée par l'actuel président de la République, que je vous demande vivement de venir écouter entre 13h et 14h au Palais des Papes. En 1997, il a obtenu également la croix de commandeur de la Légion d'honneur, qui lui a été attribuée par l'actuel maire de Bordeaux. En 2003, en janvier 2003, il a obtenu les droits d'entrée à la sécurité sociale, alors qu'il était française, alors qu'il était cherché par Interpol. Le spectacle, il est là aussi pour que ça révolte un peu. Moi, j'aime pas le mot de provocation, parce que j'aurais honte de dire que notre spectacle est provocateur. Je trouverais ça indécent, parce que la provocation... C'est Kim Woo-chung et les patrons mafieux liés à certaines politiques dégradantes qui ont infligé une provocation à ces femmes. La vraie provocation, c'est elles qui la subissent. Nous n'avons aucune coquetterie à dire que notre spectacle est provocateur. Par contre, s'il a une capacité à faire que dans la salle, ça se révolte un peu, que ça dise « je ne suis pas d'accord ». Après, c'est un autre chemin qui s'engage, mais soyez sûr que cette responsabilité à l'égard du public, elle fait partie du spectacle, elle fait partie de notre rapport avec François Bon et les gens avec lesquels nous travaillons.
Je vais dire une dernière idée aussi, mais c'est une vérité. Daewoo en coréen, le nom Daewoo, ça veut dire vaste univers.
Merci Agnès Sourdillon, merci Charles Torchman. Donc Daewoo. Du 18 au 24 à Château Blanc, donc de l'autre côté. Merci beaucoup. Merci.